Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, et bienvenue dans Les Échos de l'Innovation. Je m'appelle Vincent Lemerle, et avec Raphaël Berry, nous serons aujourd'hui les présentateurs de votre émission. C'est avec une immense joie que nous recevons dans notre studio quatre étudiants de l'Université Technologique de Compiègne. Ils viennent nous parler d'un sujet qui nous concerne tous, la santé publique. Donc bonjour à tous, chers invités. Est-ce que vous pouvez vous présenter à tour de rôle en quelques mots ?
Bonjour, je m'appelle Eugénie et je suis étudiante à l'UTC en première année.
Bonjour, moi c'est Jules, je suis étudiant en première année à l'UTC également.
Bonjour, moi c'est Agathe, je suis étudiante en troisième année à l'UTC.
Et bonjour, moi c'est Nicolas et je suis également étudiant en première année, en troisième année.
Mais avant d'entamer notre débat, faisons un point sur les découvertes scientifiques du moment. Bonjour Raphaël.
Bonjour Vincent. Commençons par le plus prestigieux. Le prix Nobel de médecine de la santé 2019 a été décerné le 7 octobre à William Kellin, Greg Semenza et Peter Radcliffe.
Tout à fait. Leurs travaux sur l'adaptation des cellules à l'apport variable d'oxygène a été cette année récompensé par ce prix.
Alors en quoi cela consiste ?
Les trois scientifiques ont compris la façon dont les cellules perçoivent et s'adaptent à la disponibilité en oxygène dans leur environnement. Comme vous devez le savoir, le corps peut affaiblir son approvisionnement en oxygène, comme dans le cas d'un exercice physique par exemple. Leurs travaux ont donc permis d'expliquer ce processus et de visualiser comment fonctionnent les tissus qui sont particulièrement sensibles aux variations du niveau d'oxygène, comme ceux du système cardiovasculaire.
Et qu'ont-ils découvert ?
Tout d'abord, le professeur Greg Semenza et Sir Peter Radcliffe ont montré l'importance de la protéine HIF1 pour le corps humain. Ils ont découvert que cette protéine était un régulateur central du manque d'oxygène pour toutes les cellules. Concrètement, HIF1 stimule la formation des vaisseaux sanguins en agissant sur le facteur de croissance vasculaire. Les chercheurs ont ainsi montré qu'en augmentant la production de HIF1 dans l'organisme, ils amélioraient le flux sanguin.
Quel fut le rôle de William Kellin dans ce Nobel ?
Le chercheur en cancérologie travaillait, lui, sur la maladie du VHL, qui est liée au gène VHL. Cette maladie concerne les patients atteints d'un trouble génétique. Elle les expose à un risque beaucoup plus élevé de certains cancers. Lorsque le gène est non muté, il transfère la capacité de l'organisme à prévenir l'apparition de cancers. Pour cela, il agit sur la protéine HIF1. Il permet de réduire la croissance des tumeurs en empêchant la formation de vaisseaux sanguins tumoraux par laquelle le cancer se nourrit à la fois de sucre et en oxygène.
Merci Vincent pour ces précisions. Revenons maintenant au débat.
Revenons donc à notre sujet. La santé publique est un sujet qui revient à l'actualité aujourd'hui. Entre la montée de la défiance contre notre système de santé ou l'ouverture du procès fin septembre contre les scandales sanitaires du Mediator, nous pensons qu'il est important de faire une pause sur ce thème et d'analyser quelques problématiques concernant la santé publique. Tout d'abord, regardons ces quelques chiffres concernant la manière dont nous soignons en France. Il faut déjà savoir qu'un Français consomme en moyenne 3000 euros de soins et de biens médicaux par an. Cela fait de nous le quatrième pays d'Europe qui débourse le plus pour sa santé. Concernant les médicaments, un Français en consomme environ 47 boîtes par an. La France figure par exemple dans le top 3 des consommateurs d'antibiotiques. Ces chiffres sont assez impressionnants et assez paradoxaux avec la vision des Français sur la médecine. En effet, d'un côté, on ressent une montée de la défiance envers notre système, notamment sur le sujet des vaccins, et de l'autre côté, on remarque une augmentation en volume du nombre de médicaments vendus. Tout cela nous a poussé à nous demander aujourd'hui comment et pourquoi des scandales sanitaires viennent remettre en cause notre médecine et surtout, se soigne-t-on correctement en France aujourd'hui ?
Alors pour commencer, Agathe, peux-tu nous dire qu'est-ce qu'un scandale sanitaire ?
Donc, tout d'abord, un scandale est une affaire fâcheuse ou malhonnête ayant un grand retentissement dans le public et de lourdes conséquences judiciaires. Un scandale sanitaire est en particulier lié à une crise relative à la santé ou à l'hygiène qui aurait pu être vérifiée ou évitée et qui traite de dossiers douloureux ayant entraîné la mort, le cancer ou la maladie des patients. C'est donc en lien direct avec la santé, mais également avec l'environnement. On retrouve par exemple le cas de l'amiante, qui est présent dans les bâtiments et qui a servi à la construction de bâtiments il y a encore quelques années, malgré la connaissance des risques et de la toxicité de l'amiante dans ces bâtiments.
Peux-tu nous parler maintenant des principaux cas de scandales sanitaires en France, s'il te plaît ?
Alors en France, il y a eu beaucoup de scandales sanitaires, notamment dans la deuxième moitié du XXe siècle. Il y a par exemple le cas du sang transfusé contaminé par le virus d'immunodéficience humaine. Donc ce virus a été longtemps ignoré par les autorités françaises et par la médecine française. En effet, il y avait très peu d'études dessus et peu de médecins le prenaient en compte, si bien que du sang transfusé était contaminé par ce virus et a été transmis par des patients en besoin de sang. Il y a également le cas de l'isoméride et du Mediator, qui sont deux médicaments prescrits par les médecins dans le cas de diabète ou pour les personnes en surpoids, et qui ont tous les deux été commercialisés par le laboratoire Servier. Donc pour le cas de l'isoméride, qui a été commercialisé entre 1985 et 1997, celui-ci a entraîné des cas de valvulopathie pouvant entraîner la mort sans antécédent chez beaucoup de patients. Malgré des lanceurs d'alerte, donc par exemple un jeune médecin de Servier qui avait alerté sa hiérarchie sur les effets de l'isoméride, mais qui a été prié de se taire avant d'être licencié. Il y a également une étude qui avait été réalisée sur les rats traités avec le médicament qui montrait un épaississement des valves, et cette étude a été ignorée. Donc c'est seulement à la suite d'observations effectuées dans de nombreux hôpitaux, comme l'hôpital Antoine Béclair de Clamart, donc qui ont montré qu'il y avait une coïncidence entre la consommation d'isoméride et la survenue d'hypertension artérielle pulmonaire chez plusieurs malades du service. Donc il a fallu attendre toutes ces observations pour que le laboratoire Servier demande au directeur du Centre d'épidémiologie clinique et de recherche en santé publique à l'Université McGill de Montréal de mener une étude internationale sur l'effet de l'isoméride. Et donc il a fallu enfin attendre 1997 pour que le médicament soit directement interdit en France. Pourtant, ce scandale sanitaire a peu d'impact sur la France. Il n'y a que deux personnes qui ont réellement porté plainte. Alors qu'aux États-Unis, des personnes en surpoids se sont rassemblées, ont formé des associations pour porter plainte en groupe. Et il y a eu plusieurs milliers de plaintes déposées contre le laboratoire Servier et les personnes commercialisant ce médicament.
D'accord, très bien. Et selon vous, qui sont les responsables du scandale sur le médicament Mediator?
Alors, déjà, commençons par rappeler, le Mediator, c'est 5000 victimes, mais plus de 500 morts. Donc, les effets secondaires, c'est en général hypertension artérielle pulmonaire, une maladie rare aboutissant à une insuffisance cardiaque et des cas de valvulopathie. Donc, Nicolas, valvulopathie.
Oui, les valvulopathies, en fait, ce sont des déficiences au niveau du cœur. En fait, au niveau du cœur, on a à l'entrée, à la sortie, en quelque sorte, des veines et des artères qui possèdent des valves qui se ferment et qui s'ouvrent en fonction du cycle cardiaque. Et donc, lorsqu'on a une déficience dessus, on peut avoir des déficiences cardiaques qui peuvent causer, parfois, dans certains cas, la mort. Ouais. Et donc, régulièrement, en fait, il y a de nombreux patients auxquels on a dû changer les valves, parce que c'est possible si on remarque ça à temps, mais c'est une opération très lourde et c'est un problème de santé très très sérieux.
Oui, c'est sûr. Donc le Mediator, il a été retiré du marché belge en 1978, du marché suisse en 1997, alors qu'en France, qu'à partir de 2009.
Oui, en effet, on a pu voir qu'en 1997, l'isoméride avait été supprimée en France, mais ce n'était pas le cas du Mediator. Alors que pourtant, ces deux médicaments sont très liés, ils dérivent de la même molécule, la norfenfluramine, qui est très toxique, et sont tous les deux des coupe-faims amphétaminiques.
C'est ça. Alors, juste pour préciser, les amphétamines, en fait, ce n'est pas une seule molécule, c'est toute une famille de molécules. On s'en sert comme coupe-faim, mais ce n'est pas le but principal. Enfin, de manière générale, c'est une famille qui a des effets sur le système nerveux, qui diminue les sensations de fatigue, de faim ou de sommeil. Et par exemple, dans le cas du Mediator, il était utilisé pour traiter les patients triglycéridémiques ou atteints de certains types de diabète de type 2. Et une chose qu'on peut remarquer, c'est que très vite, il a été donné à des gens pour qui ce n'était pas recommandé, comme coupe-faim tout simplement. Et selon certains chiffres, c'est même une personne sur cinq qui s'est vue recommander le médicament sans raison, comme ça.
En effet, ce médicament pouvait être considéré comme ayant un bénéfice supérieur au risque quand il était destiné à des patients atteints de diabète, mais ce n'était pas le cas pour quand il était utilisé seulement comme coupe-faim. Et c'est ça qui a eu beaucoup d'impact dans ce scandale, c'est qu'il a été utilisé alors que les bénéfices étaient bien moindres que les risques. Donc, surtout qu'en France, comme c'était là qu'était présent le laboratoire Servier, on avait en fait... une certaine corruption parmi les institutions de l'État. Donc on voit par exemple que dans l'AFSAPS, qui est donc qui était à l'époque l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. On a une étude qui a été réalisée en 2004 par deux journalistes, Thierry Soucaret et Isabelle Robard, qui a montré que sur 675 personnes, donc membres de l'AFSAPS, il y avait 415 personnes qui déclaraient avoir des intérêts dans l'industrie pharmaceutique ou cosmétique. Donc ça montre clairement que l'AFSAPS en fait, était guidée par des intérêts commerciaux au lieu d'être guidée par l'intérêt général.
Donc, et par ça, c'est malheureusement quelque chose qui arrive souvent, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les études coûtent très cher. L'État ne peut pas toutes les payer, donc forcément, les scientifiques ont besoin de fonds extérieurs pour faire des recherches, et les laboratoires eux-mêmes aussi financent leurs propres recherches, évidemment. Dans l'extrême majorité des cas, c'est utile, puisque forcément, quelqu'un qui veut commercialiser une molécule va devoir faire des recherches dessus avant. Ça, en général, ça prend 5 ans sur les 10 ans que ça prend de faire une nouvelle molécule. Mais forcément, si l'entreprise est malhonnête, on peut avoir de très gros soucis comme ici, donc avec des personnes qui donnent les résultats attendus, en fait.
Oui, et puis pour finir, on peut clairement remettre en cause l'État dans ce scandale, puisque l'État n'a pas agi. On peut voir que dans d'autres pays, il a été interdit avant les années 2000, alors qu'en France, il n'a été interdit qu'en 2009, même 12 ans après l'interdiction des médicaments de cette classe thérapeutique aux États-Unis. Donc, on a même Servier qui se plaint de théorie du complot. Il dit que les 500 morts affichées ne sont en réalité que 3 et que c'est un nombre marketing pour, en gros, détruire son laboratoire, ce qui a été prouvé. Le laboratoire est d'ailleurs jugé en ce moment même. Et on peut voir que, pour tromperie aggravée, escroquerie, blessure et homicide involontaire et trafic d'influence. Donc on peut voir que le laboratoire avait beaucoup d'influence au niveau de l'État et que l'État n'a pas su gérer en fait, ce lobbying et donc ça a mené à ce scandale.
Oui, d'ailleurs, un autre signe de ça, c'est que l'ANSM aussi est mise en examen, pas seulement les laboratoires Servier, et elle aussi donc, pour homicide et blessures involontaires.
Oui, tout à fait. Et donc, moi, je pense que ce problème, en fait, c'est lié au fait que beaucoup de personnes dans les industries pharmaceutiques pensent que toute vérité scientifique n'est pas bonne à dire quand on fait du commerce. Et ça montre qu'il y a un problème de transparence envers le public, problème qui reflète l'écart entre la science qui est assez exclusive et le public qui est non formé et vulnérable, ce qui mène à une grande méfiance en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'il y a une grande méfiance qui est créée entre le public et la médecine actuelle.
Absolument, et ça c'est dû tout simplement parce que dans les recherches classiques, quand on fait des études classiques, très souvent on ne peut pas définir réellement ce qui se passe. On ne peut pas dire, voilà, ceci cause ça. On a souvent des facteurs confondants et c'est compliqué de communiquer là-dessus et de donner des certitudes. Du coup, lorsqu'on a une probabilité qui est plus haute d'avoir tel médicament qui génère une maladie, comme on a l'habitude de communiquer en absolu, ça peut servir de prétexte pour les laboratoires pour communiquer faussement sur leur...
Tout à fait.
D'accord, très bien. On a bien pu voir les conséquences de ces scandales sur la population française. Maintenant, on sait que les gens ont de plus en plus de défiance envers la médecine. Et on va prendre maintenant l'exemple des vaccins. Et on va maintenant écouter le micro-trottoir réalisé à propos de ce sujet.
Bonjour, je suis étudiante à l'UTC et je voudrais avoir votre avis sur les vaccins. Donc, est-ce que vous êtes pour, contre ?
Oui, je suis plutôt pour les vaccins, oui.
Vous savez qu'il y a 11 vaccins maintenant qui sont nécessaires pour les enfants. Est-ce qu'on est passé de 3 à 11 ? Assez récemment, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes contente ?
Oui, je pense que c'est une bonne chose et qu'il faut les faire, dans la mesure où on n'entend pas après qu'il y a des qu'il y a des réticences. Après, de temps en temps, on entend ça aussi, donc à prendre avec précaution. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est une bonne chose, les vaccins, oui.
Moi, personnellement, je suis contre les vaccins.
Pourquoi ?
Parce que je pense que le corps humain fait ses anticorps soi-même. Moi-même, je n'ai jamais eu la toxoplasmose, malgré le métier que je fais, à être au contact des lapins, tout ça, et je ne l'ai jamais eu, je me suis immunisée moi-même.
Donc bon, voilà, là, c'est un petit échantillon de ce que j'ai pu rapporter en allant donc, dans la rue à Compiègne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on est le premier pays anti-vaccin. Je suis tombée sur énormément de gens qui m'ont clairement dit qu'ils étaient contre, ou des gens même qui étaient pour, mais qui étaient quand même assez méfiants. Et voilà, donc j'ai eu d'autres témoignages, où notamment quelqu'un qui s'appelait donc Thibaut et qui me disait être, donc je cite, pour, mais sans confiance aveugle. Voilà.
D'accord.
On peut donc se poser la question, est-ce que les vaccins devraient-ils être obligatoires? Ou alors devrait-on avoir le choix? Donc, qui peut répondre à cette question?
Dans l'idéal, il ne devrait pas être obligatoire pour une question de liberté individuelle, mais ensuite, l'efficacité est tellement prouvée que les gens devraient se vacciner quand même. La raison pour laquelle avant on n'avait pas 11 vaccins obligatoires, c'est parce que les gens les prenaient quoi qu'il arrive.
Oui, et puis en plus, le fait que ça soit obligatoire, en fait, c'est un facteur qui va augmenter la méfiance des gens envers les vaccins. C'est-à-dire qu'il y a une bonne partie des gens qui sont anti-vaccins qui le sont parce qu'ils pensent qu'en fait, les vaccins sont obligatoires pour générer du profit et pour se faire de l'argent, tout simplement. Et donc, le fait de les rendre obligatoires peut augmenter la méfiance des gens à l'égard des vaccins et donc avoir l'effet inverse de ce qui est escompté, c'est-à-dire avoir le plus de personnes vaccinées possible.
Oui, c'est sûr. Beaucoup de gens voient la vaccination comme un business. Donc forcément, on a une perte de confiance en les autorités supérieures, les médecins, voire même le ministère de la Santé. Et aussi, les gens prônent une sorte de retour à un mode de vie plus naturel. C'est ce qu'elle disait, donc la dame, elle disait « je fabrique mes anticorps moi-même ».
Mais qu'est-ce qu'il en est réellement de l'immunité, en fait? Parce que pour l'instant, on parle de vaccin, mais comment ça agit sur le corps? Est-ce que quelqu'un en sait
plus? Alors voilà. L'immunité, alors ce qu'il faut savoir, c'est que les vaccins, ils servent seulement à exciter l'immunité. C'est-à-dire que dans le corps humain, la manière que l'on a de soigner les maladies, de nous soigner nous-mêmes, c'est qu'on a des cellules, communément appelées globules blancs, qui peuvent reconnaître le non-soi. C'est-à-dire que nous-mêmes, nos propres cellules, elles ont des marqueurs protéiques dessus, des protéines qui sont reconnues et qui font qu'elles ne sont pas détruites. Lorsqu'une cellule ou un virus qui ne porte pas ces marqueurs protéiques ou des marqueurs protéiques différents apparaît, elle est reconnue et elle est détruite. Cependant, la réponse est plutôt lente. Et pour éviter qu'elle soit aussi lente la prochaine fois, ce que fait le corps humain, c'est qu'il développe des globules blancs spécifiques qui sont des lymphocytes, des lymphocytes mémoire, qui vont garder en mémoire ces marqueurs protéiques spécifiques de telle ou telle bactérie ou tel virus. Et dès qu'ils le reconnaissent de nouveau dans le corps humain, immédiatement, ils peuvent produire des anticorps spécifiques qui vont attirer les globules blancs pour détruire ces cellules. Donc, la manière dont les vaccins fonctionnent, c'est qu'ils présentent de manière atténuée ou détruite ou des morceaux de protéines ou des bactéries mortes ou qui ne peuvent pas transmettre la maladie, mais qui sont reconnues donc par le système immunitaire, qui gardent cette mémoire et qui peut les détruire beaucoup plus vite la prochaine fois qu'ils les voient. Donc, ça... oui, tu veux dire quelque chose, Agathe?
Non, Eugénie. Oui, je voulais juste dire que c'est sûr que forcément, les gens sont pas... Enfin, moi, personnellement, j'étais pas du tout au courant de tout ce qu'il y a derrière un vaccin, donc tout ce que tu dis là. Donc forcément, les gens sont pas au courant. Et quand on n'est pas au courant, à premier abord, c'est sûr qu'on est forcément méfiant à ce moment-là, quoi.
Oui, et puis en plus, ce mode d'action du vaccin qui est donc particulier par rapport aux autres formes de médecine conventionnelle, et aussi une source de méfiance puisque les personnes qui sont vaccinées ont l'air d'être tout à fait saines au départ quand elles sont vaccinées, ce qui n'est pas le cas pour d'autres pour d'autres médicaments. C'est-à-dire que d'habitude les personnes sont malades et on leur donne un médicament afin que celles-ci guérissent, et dans le cas du vaccin, la personne est saine au départ. Alors est-ce que ça vaut le coup de se faire vacciner et donc d'encourir des risques d'avoir des effets secondaires, etc.?
Mais si je comprends bien, on administre en fait une fraction du virus qui n'est, ou de la bactérie qui n'est en fait pas, qui n'a pas d'impact sur la santé, mais qui réveille notre immunité. Mais en fait, qu'est-ce qui du coup a des effets secondaires? Parce qu'on parle d'effets secondaires, mais je comprends pas bien qu'est-ce qui dans le vaccin va avoir des effets secondaires sur la santé. Est-ce qu'il y a vraiment des études là-dessus ou c'est juste une impression générale?
Non, il y a de très nombreuses études. Alors les effets secondaires bénins qu'on voit souvent, c'est par exemple comme c'est forcément on pique un endroit où on va avoir ce que le corps humain considère comme une infection, on va avoir une réaction inflammatoire, donc ça va faire mal, ça va rougir, ça va gonfler, c'est pas très grave. On peut avoir un peu de fièvre, on peut se sentir un peu fatigué après avoir pris le vaccin. Dans des cas très très rares, alors selon les vaccins, j'avais trouvé des chiffres, donc ça peut être entre 0,65 et 10 cas par million de personnes. Ça, c'est les chiffres du Centre belge d'information pharmacothérapeutique. On peut avoir des effets graves, donc des réactions allergiques, des choses comme ça. Et dans des cas encore plus rares, ça peut causer la mort. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus faible et beaucoup, beaucoup moins dangereux que le fait de ne pas être vacciné. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la raison pour laquelle on est vacciné, c'est pas tellement pour se protéger individuellement. La plupart des gens dans la population pourrait guérir d'un grand nombre de maladies spontanément ou par médication, mais c'est pour avoir une couverture vaccinale et éviter que les gens vulnérables soient infectés. C'est-à-dire que si suffisamment de personnes sont immunisées contre une maladie, elle ne peut pas se propager de malade en malade et infecter les bébés, les personnes âgées, les personnes immunodéprimées, les choses...
clairement, la vaccination, ça permet à des anciennes maladies qui n'existent plus, entre guillemets, de ne pas ressurgir, parce que sinon...
C'est ça, par exemple, on a déjà réussi à éradiquer la variole par la vaccination. Ouais. Ça revient, mais on n'entendait plus parler de la rougeole, on n'entend plus parler de la poliomyélite, ouais. Toutes ces maladies-là sont beaucoup moins présentes de nos jours.
Mais du coup, par exemple, pour le cas de la rougeole, c'est à cause de personnes qui ne se vaccinent pas qu'il y a une augmentation de cas de rougeole en France ?
Oui, c'est pour ça, parce que souvent, ce sont Bon, si on a un enfant qui n'est pas vacciné, qui a la rougeole, peut-être qu'il ne va pas tomber malade, mais il va quand même transmettre la maladie. Et s'il va à la crèche, par exemple, et que suffisamment d'enfants ne sont pas vaccinés ou tout simplement sont trop jeunes pour être vaccinés... Ils vont les transmettre à un grand nombre d'enfants dans cette crèche, par exemple.
Donc maintenant, on va parler de la relation médecin-patient qui se complexifie et qui est souvent remise en cause. Alors, pouvez-vous me dire comment cette remise en question a pris ses racines ?
Donc, en France, on a une relation médicale qui repose au XXe siècle sur le modèle paternaliste et hiérarchique. Donc, on va parler de cette relation après une petite pause médicale, puisqu'elle a beaucoup évolué en fait au cours du XXe siècle. Donc, elle est passée d'un modèle paternaliste à un modèle maintenant qui est plutôt multilatéral. Le patient va interagir avec son médecin. Maintenant, il va demander des renseignements. Donc, on verra ça après une petite interlude musicale. On vous retrouve tout de suite après une douce musique.
I love you. Carino. Y a de la rumba dans l'air. Le smoking de travers. Je te suis pas dans cette galère. Ta vie, tu peux pas la faire. Tu cherches des morceaux d'hier, pépère. Dans des gravats d'avant-guerre. Casino, c'est qu'un tas de pierres. Ta vie, tu peux pas la faire. Branche un peu tes écouteurs par ici. La mer est déjà repartie. Le vieux casino démoli, c'est fini. Des guili guili, des Bugatti, des oh la la la, des soirées de gala, Riviera.
Carino.
Y a de la rumba dans l'air, le smoking de travers. Je te suis pas dans cette galère, ta vie tu peux pas la faire. Tu cherches des morceaux d'hier, pépère, dans des cravats d'avant-guerre. Casino, c'est qu'un tas de pierres. Ta vie, tu peux pas la faire. Fermez les yeux des grandes filles bleues marines, tout à Langui pour une nuit de Chine, sur les banquettes de Moleskine. Des limousines. Écoutez l'histoire entre Trouville et Dinard. Un long baiser fini, c'est trop tard. Les mains sous le satin, caresse du matin, chagrin. Y a de la rumba dans l'air, le smoking de travers. Je suis pas dans cette galère, ta vie tu peux pas la faire. Tu cherches des morceaux d'hier, pépère, dans des gravats d'avant-guerre. casino, c'est qu'un tas de pierres. La vie, tu peux pas la faire.
Vous êtes bien sur les échos de l'innovation sur Graphite 94.9 FM. Donc on va reprendre notre sujet de santé publique.
Alors tout à fait, on était sur les vaccins et je vais vous poser la question de est-ce que vous êtes pour ou contre les vaccins ?
Alors moi je ne citerai pas mon avis personnel, mais je vais déjà expliquer dans quelle mesure on peut être contre. Donc je me suis renseignée un peu et en effet un grand ponte, Michel Georget. Donc bon, il est mort très récemment en mars 2019, c'était un professeur de bio dans les classes préparatoires. Et donc lui, il a passé sa vie à dénoncer l'imposture des vaccins. Il a écrit 2 livres à ce sujet, dont un que j'ai pu feuilleter brièvement. Et donc selon lui, les vaccins échappent à un certain nombre de contraintes réglementaires nécessaires à la mise au marché des médicaments en général. Donc notamment les études pharmacocinétiques, c'est-à-dire le suivi des produits injectés dans l'organisme. Donc comment le produit est éliminé, comment il est fixé dans certains tissus, etc. Et donc pour les vaccins, ceci n'est apparemment pas requis. Et il prend l'exemple de l'aluminium dont une partie, s'il est injecté, peut pénétrer dans le cerveau et causer des troubles. Aussi, donc, il n'y a pas d'études de mutagénèse, cancérogénèse et génotoxicité. Il prenait aussi l'exemple du Gardasil, le vaccin contre le cancer du col de l'utérus qu'on évoquera, je pense, plus précisément un peu plus tard. Et enfin, donc, il n'y a pas de test en tant que véritable placebo, c'est-à-dire une comparaison avec l'injection d'un liquide physiologique, par exemple.
Alors, oui, ben, il y a aussi d'autres raisons qui pourraient pousser des personnes à être anti-vaccin. Notamment, donc, le fait que, c'est ce que j'ai évoqué plus tôt, le fait que les personnes vaccinées sont saines lorsqu'on leur injecte le vaccin. Mais aussi le fait que, en fait, en général, pour les personnes anti-vaccins, la chute des cas de maladie ne serait pas due à l'invention et à l'administration d'un vaccin, mais plutôt à une amélioration de l'hygiène de vie en général. Voilà, il y a aussi un facteur religieux qui entre en compte, c'est-à-dire que beaucoup de personnes qui sont proches de leur religion et qui sont religieuses, n'est-ce pas, ont une vision du vaccin qui est donc à l'encontre de la nature. Et donc, le vaccin est vu comme un élément non naturel qui n'a pas lieu d'être administré.
Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, moi, j'avais noté quelques chiffres. Donc, d'après l'INSERM, il faut quand même savoir qu'entre les années 50 et les années 90, pour les maladies pour lesquelles on a découvert un vaccin, on a, par exemple, la morbidité annuelle est passée de 100... ou entre 100 et 1000 dans les années 50 à 0 pour la diphtérie, de 30 à 1 ou 2 pour le tétanos, de 2000 à 10 000 à moins de 50 pour la coqueluche, et de 1000 à 100-150 pour la tuberculose, et encore de 100 à 0 pour la poliomyélite. Alors ça, c'est des choses qu'on attribue au vaccin quand on compare avec des maladies pour lesquelles on n'a pas encore de vaccin. Donc on a vraiment un véritable effet. Je voulais juste revenir sur ce dont tu parlais. Le fait que les gens à qui on inocule les vaccins sont sains, ça justement, ça a tendance à produire une impression d'inutilité du vaccin. On ne se rend pas compte du fait qu'on n'a pas de maladie. Et je voulais revenir sur l'interview qu'on a eu tout à l'heure. La dame qui disait qu'elle n'avait jamais eu la toxoplasmose. Bah, si on prend cet exemple-là, la toxoplasmose, c'est une maladie qui n'est dangereuse que pour la femme enceinte et son fœtus, ou des personnes immunodéprimées. Et la plupart des gens qui l'ont ne sauront jamais qu'ils l'ont eu, tout simplement, parce que c'est asymptomatique.
C'est d'ailleurs un vaccin qui n'est pas obligatoire.
C'est ça. Parce qu'en plus, c'est un mode de transmission spécifique. Enfin, voilà, c'est pour des gens qui sont exposés. Par conséquent, les gens qui seraient infectés par la poliomyélite, le danger, ce serait qu'ils la transmettent à quelqu'un d'autre de sensible. Et donc, pour cette raison, on ne se rendra pas forcément compte de son efficacité si on le prend ou si on ne le prend pas.
Et du coup, si on arrive à ça, c'est que le vaccin est efficace, mais personne, en fait, n'a réellement accès à ces chiffres. Pourquoi personne n'a... Enfin, moi, personnellement, je n'étais pas au courant qu'avant, on avait autant de cas de diphtérie, de tétanos, de rougeole.
Par contre, je suis au courant du nombre de cas d'effets secondaires, etc., liés au papillomavirus, enfin au vaccin contre le cancer du col de l'utérus.
Il faudrait une meilleure communication des effets du vaccin, puisque on parle beaucoup des conséquences, qu'il y a, une a qui parle d'autisme, je ne sais pas vraiment comment ça pourrait...
Absolument. Alors, oui.
Avoir une conséquence.
Alors, absolument, absolument. Bah, ça, c'est ce dont on va parler plus tard dans la relation médecin-patient. On a un défaut de communication très, 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 très clair en médecine. Mais je voulais revenir sur l'idée de l'autisme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi beaucoup de... Comme il y a beaucoup de méfiance envers les vaccins, il y a beaucoup de gens qui... il y a beaucoup de gens qui surfent sur cette vague et qui en profitent pour faire de la désinformation très, très grave. Par exemple, pour l'histoire de l'autisme, c'était un médecin... américain, il me semble, qui avait fait une étude justement pour comparer deux vaccins et qui avait été payé pour favoriser l'un en disant que l'autre causait l'autisme. Et son étude a été complètement débunkée, complètement détruite. Lui, il a perdu sa licence et maintenant, il gagne sa vie en faisant des vaccins contre la des livres contre la vaccination, dénonçant la vaccination. Et ça, ça a développé une énorme vague de méfiance. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui... l'information s'est simplifiée et déformée au cours du temps et beaucoup de gens pensent que les vaccins en général causent l'autisme.
Mais qu'est-ce qu'il en est donc pour les autres maladies, comme les maladies auto-immunes? Est-ce qu'il y a vraiment est-ce que le vaccin agit vraiment là-dessus ou c'est plutôt des maladies en fait qui se déclarent au moment où le vaccin est administré et donc on pourrait confondre en fait les causes de cette maladie?
Alors, je n'ai pas entendu parler du cas des maladies auto-immunes.
Pour la sclérose en plaques, par exemple.
Voilà, alors la sclérose en plaques, ça c'est très intéressant parce que c'était une erreur statistique, c'est-à-dire que il me semble que c'était dans les années 80. On a remarqué que les adolescents commençaient à développer la sclérose en plaques en même temps qu'ils étaient vaccinés contre l'hépatite B. Alors tout de suite, on a émis des mises en garde, on a arrêté de vacciner les gens contre l'hépatite B pour étudier un peu plus profondément ce qui se passe. À l'époque, on ne comprenait pas la sclérose en plaques, on ne savait pas qu'est-ce qui la causait. Et à présent, nous sommes 40 ans plus tard, on sait que la sclérose en plaques... Enfin, on a des pistes plus développées, on sait que c'est probablement une maladie auto-immune, on a plus d'informations sur ce qui la cause, et on a remarqué qu'en fait, c'est une maladie qui se déclare à l'âge où avant on vaccinait les gens contre l'hépatite B.
Ouais, donc
du
en
coup,
fait,
c'est une erreur statistique. Il n'y a pas de preuve de corrélation.
Direct, ouais.
Ça m'intéresse parce que j'avais une discussion là-dessus, j'étais allé chercher toutes les études scientifiques dessus, j'avais vu les chiffres. C'est ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas déclarer avec certitude, il n'y a pas de lien tellement il y a de facteurs confondants, mais s'il y a un lien, il est invisible. On n'a pas de chiffres significatifs, on n'a pas une augmentation du nombre d'hépatites B corrélée au vaccin.
De sclérose en plaques, pardon. Du vaccin de l'hépatite B.
Du vaccin de l'hépatite B, c'est ça.
Ok. Et donc, personnellement, du coup, je serais pour le vaccin, mais quand on voit qu'il y a autant de gens qui sont contre, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il y a une méfiance qui s'est créée et qui... Je ne sais pas comment on pourrait... Vous pensez qu'on pourrait y remédier? Vous ne voyez pas de...
Ouais, c'est ça. Peut-on parler d'une perte de confiance des patients envers le corps médical, une perte de confiance
totale?
Mais
voilà, tout à l'heure, on parlait de relations médecin-patient. Comment on peut remédier à cette méfiance? Parce qu'on voyait bien qu'au XXe siècle, les patients étaient souvent assignés à une position passive et un peu soumis à l'autorité médicale. En fait, ils prenaient leurs médicaments, tout ça.
C'est toujours le cas. C'est ce qui cause un peu ce ras-le-bol, en fait. C'est-à-dire qu'il y a énormément de scandales florissants et tout ça, ça fait clairement vaciller la confiance et ça encourage la remise en question et le doute. Et je pense que Internet et son essor, ils jouent aussi vraiment un rôle, quoi.
C'est ce que je disais, par exemple, dans le cas des vaccins, on a raison de douter. Il faut chercher de l'information dessus, il faut se renseigner. Et
oui,
ce serait le rôle des médecins.
C'est
ça le problème. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas.
L'information est mal transmise.
Outre l'information, il faudrait l'expliquer. Mais avec le développement, justement, des doutes. Derrière, il y a des théories du complot qui se sont développées. Et donc, dans le mouvement anti-vax, on a une dérive, une partie des gens qui ont carrément une dérive sectaire. Et c'est ça qui est très grave, parce que du coup, on a beaucoup de désinformation qui circule et c'est très dur de se renseigner là-dessus. Et on a une perte de confiance envers les médecins en même temps.
Même si c'est un peu moindre, on a, par exemple, sur Internet, des sites comme Doctissimo qui, à partir d'un symptôme, vont donner 20 maladies différentes. Ouais. On va tousser, on va nous dire qu'on a un cancer. Donc forcément, le médecin arrive, qui nous dit « Vous inquiétez pas, c'est juste un rhume, attendez 2 jours et ça va passer », il y a une méfiance qui se crée. Et même, en parallèle, on a une dégradation du système de santé en France. On a de moins en moins de temps qui est attribué aux patients, on ne peut pas répondre à leurs questions. Certains médecins n'ont même pas le temps d'expliquer, en fait, réellement ce qu'a le patient. Ils donnent des médicaments sans dire qu'est-ce que ça va vraiment guérir, quoi. On ne sait pas ce qu'on prend et c'est ça aussi qui...
Oui, donc clairement, pour en revenir un peu à Internet, et donc tu as évoqué Doctissimo, c'est vrai que sur Internet, on trouve tout et son contraire, clairement. Et donc Doctissimo et les autres sites comme ça, c'est quand même difficile de trier l'information. Et donc pour savoir, je pense qu'on ne va pas non plus arrêter d'aller sur Internet sous prétexte qu'il peut y avoir de la désinformation. Mmh. Mais donc ce qu'il faut, c'est savoir utiliser cet outil genre d'une bonne façon. Donc en fait, clairement, il faut déjà vérifier le référencement scientifique du site. C'est la première chose à faire. Il faut regarder s'il y a bien une indépendance et aucune influence commerciale et publicité, etc. Et enfin, vérifier, donc, par exemple, avec quelques maladies très connues, le diabète de type 2, même des trucs assez, beaucoup plus bénins comme je sais pas, une cystite ou quoi, si les conseils et les traitements ils collent à la réalité de ce qu'on connaît.
Oui, tout à fait. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi revenir sur le fait que même le médecin a, en fait, on doit travailler là-dessus. En fait, le médecin, j'ai une amie qui est en médecine, elle m'a dit qu'actuellement, elle avait des cours d'empathie qui étaient donnés, mais ce n'était pas le cas avant. C'est-à-dire qu'avant, on donnait des cours purement scientifiques. Le médecin, il arrivait, il disait au patient, bon, voilà, vous avez ça. Donc, quand on annonce un cancer à quelqu'un et qu'on le dit, bon, vous avez un cancer, il va falloir faire ça, clairement, c'est une annonce qui est mal maîtrisée.
Bien sûr, mais pour prendre leur défense, c'est des choses qu'ils font. Ils font ça toute la journée, donc
oui,
forcément ils banalisent la chose.
Voilà,
c'est sûr.
Ça.
Il faut se mettre, enfin, faut voir les deux points de vue.
Remettre en cause tout le corps médical et.
Mais c'est vrai qu'il y a une prise de conscience à ce niveau-là. Moi, avant de faire ingénierie, j'ai fait 2 ans de PACES, donc préparer le concours de médecine, et je vois que là, on commence à avoir des cours justement où on nous explique la relation avec le patient, en éthique. La manière de travailler avec le patient, parce que parfois, quand un patient a une maladie depuis 10 ans, une maladie chronique, quelque chose comme ça, il peut devenir expert de sa maladie et puis aider les médecins à le soigner, parce qu'il va voir différents médecins, et il peut aider les autres patients atteints de la même maladie. Je ne sais pas depuis combien de temps on apprend ça, mais il me semble que ce n'est pas très longtemps. Et donc les médecins qui ont grandi, on va dire, avec ce genre de cours, ils ne sont pas encore arrivés sur le marché du travail.
Alors moi, je veux juste rajouter quelque chose, c'est que clairement, la relation qu'on devrait avoir avec un médecin, c'est quelque chose qui est réciproque. Et c'est vraiment nécessaire, ça ne peut pas être unilatéral. Il faut que le médecin ait confiance en son patient, autant que le patient a confiance en son médecin.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Là, il y a une étude qui a été réalisée récemment sur la qualité de la relation entre le médecin et ses malades. Donc, on a remarqué que quand en fait, le malade était coupé dans sa description des symptômes ou que le médecin était rivé sur son ordinateur pendant que le patient relatait ses problèmes, il y avait cette qualité de la relation, elle était diminuée considérablement. C'est-à-dire que même en fait, la qualité du traitement qui suivait n'était pas aussi efficace que si le médecin l'avait vraiment écouté, avait pris en compte, l'avait regardé, lui avait posé des questions. La manière dont le patient va ensuite être guéri est influencée en fait par comment son médecin va lui parler, quoi.
C'est, ouais, ça... Après, encore une fois, enfin, à l'hôpital notamment,
on demande
aux médecins d'être rapides. J'ai des amis qui travaillent aux urgences, ils ont pas le temps, c'est ça qui est terrible,
et on a un énorme manque de médecins ou de professionnels de santé en général. C'est ce qu'on voit souvent avec les grèves des urgences, tout ça. On a des déserts médicaux pas possibles. Et alors, pour cette histoire de temps consacré aux patients, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler avec l'homéopathie plus tard et la raison pour laquelle les gens peuvent préférer les médecines alternatives. Mais un autre aspect dont je voulais parler aussi, c'est qu'on a dit au début de l'émission que les Français étaient parmi ceux qui se soignent le plus avec des médicaments. On est parmi les plus médicamentés au monde. Et ça
et
aussi, c'est un...
très méfiant, oui.
C'est non, sûr. Et ça, c'est un problème culturel, tout simplement. C'est-à-dire qu'on s'est habitué, quand on va chez le médecin, même pour un rhume ou quoi que ce soit, on est là pour qu'il nous donne des médicaments. On n'accepte pas, on ne va pas faire confiance à un médecin qui nous dit, bah écoutez, ça va passer dans une semaine, rentrez chez vous. Alors que clairement, c'est ce qui devrait se passer dans certains cas. Et je vais prendre l'exemple, il me semble que c'est la rhinopharyngite. Dans un certain pourcentage des cas, la rhinopharyngite est bactérienne, dans un autre pourcentage, elle est virale. Et normalement, il ne faudrait donner des antibiotiques qu'à ceux qui ont la bactérienne, parce que si on la donne à ceux qui ont la version virale de la maladie, si on en donne, d'un côté, ces gens-là, ça ne va pas les aider à guérir plus vite, et d'un autre côté, ça va développer la résistance médicamenteuse. Les bactéries qui seraient présentes par hasard chez lui aussi peuvent développer des résistances aux médicaments, et on ne peut plus soigner les gens qui ont la version bactérienne. Ça, c'est un... Oui, tu voulais...
D'accord. Et ces problèmes, ils sont propres à la France ou on peut trouver d'autres exemples, par exemple, dans d'autres pays?
C'est particulièrement développé en France.
Oui, bah notamment j'aimerais parler du fait que, enfin du Danemark, c'est-à-dire que j'ai vécu au Danemark une bonne partie de ma vie, et donc je sais que au Danemark on a un système de santé qui est complètement différent de celui en France, dans le sens où l'accès aux médicaments est beaucoup moins facile, on va dire, dans le sens où si par exemple on a un cas de maladie, le médecin ne donnera pas un médicament juste pour donner un médicament ou pour contenter le patient. Bien souvent on va voir le médecin nous dit rentrez chez vous, revenez nous voir dans deux jours si ça n'a pas évolué dans le bon sens, alors qu'en France c'est clairement prenez le médicament au cas où et puis voilà.
Oui, c'est sûr, je voulais rajouter, en France quand on va chez le médecin, on attend du médecin qu'il nous prescrive quelque chose, qu'il nous donne quelque chose, parce que si on repart les mains vides on se sent entre guillemets arnaqué, si je peux employer le mot.
Mais est-ce que ce ne serait pas une conséquence des lobbies sur les médicaments et tout ça,
très clairement.
On a eu tout à l'heure avec les scandales comme le médiateur qui ont fait pression pour que ce soit vendu. Et puis même pour les vaccins, on comprend du coup qu'il y a cette méfiance envers les vaccins. Mais vers quoi les gens se tournent du coup? Est-ce qu'on le verra après une musique également?
Je ne sais pas, peut-être.
Tout à fait, après une petite pause musicale.
Profitez bien.
Je ne sais quoi.
C'était France Gall, LALA sur Radiographie 94.9. Vous êtes toujours sur les échos de l'innovation avec Raphaël et moi-même Vincent Lemerle en tant que présentateur et quatre intervenants de l'UTC, Eugénie, Jules, Agathe et Nicolas.
Donc on était en train de parler de la relation médecin-patient qui se complexifie, car les patients ont de moins en moins confiance envers le corps médical et décident donc de se rediriger vers des médecines alternatives comme l'homéopathie, l'acupuncture ou encore l'hypnose.
Oui, tout à fait. Il en existe d'ailleurs. On peut en distinguer quatre types, on peut les diviser sous quatre catégories principales. Donc de médecine non conventionnelle, c'est leur nom plus officiel, on va dire, ou bien thérapie complémentaire. Donc le premier type serait les thérapies biologiques, c'est-à-dire les thérapies qui se tournent vers la nature, un appel à la tradition, et qui font appel aux produits naturels, donc des plantes, des animaux, des minéraux, pour se soigner. Donc on peut penser notamment à la phytothérapie, qui utilise donc majoritairement des plantes, ou bien l'aromathérapie, qui sert donc d'arôme. Voilà. Il existe aussi donc des thérapies manuelles, qui entrent donc dans cette deuxième catégorie, comme l'ostéopathie ou la chiropraxie. Qui en fait se base sur une manipulation du corps pour soigner le patient. Il y a aussi une troisième catégorie qui serait des approches corps-esprit, où on cherche à réunir le corps et l'esprit, donc pour, c'est-à-dire en soignant le corps, on se soignerait l'esprit et inversement. Par exemple avec l'hypnose, la méditation ou bien encore la sophrologie. Et puis le dernier type de médecine non conventionnelle, ce serait donc les systèmes qui reposent sur leur propre base théorique et leur propre théorie. Donc comme par exemple l'acupuncture ou bien l'homéopathie qui est très populaire en ce moment, enfin qui est très discutée récemment,
qui fait la polémique.
D'accord. Et qu'est-ce que recherchent les patients dans la médecine douce qui n'ont pas dans la médecine conventionnelle?
Bah, tout à l'heure, déjà, bien sûr, on parlait de l'écoute. On remarque que les pratiquants des médecines alternatives consacrent beaucoup plus de temps à leurs patients. Et donc, moi, je voulais approfondir un peu sur l'homéopathie parce que c'est un cas très intéressant. C'est une méthode très, très populaire en France et qui marche. Ça, il faut absolument... Tu veux dire quelque chose, Raph?
Oui, tout à fait, sur l'homéopathie, pour revenir dessus. Il y a une nouvelle loi qui vient de passer, comme quoi l'homéopathie ne sera plus remboursée à partir de 2021.
Je voulais juste préciser que c'est remboursé actuellement à hauteur de 30%.
De 30%, oui. Donc oui, c'est justement de ça que je voulais parler, parce qu'une chose qu'on constate, c'est que l'homéopathie fonctionne. Elle marche, elle a un effet, mais quand on se penche sur l'histoire de l'homéopathie et sur ce que c'est réellement, on peut se poser des questions, on peut se demander comment ça se fait. Parce que donc, l'homéopathie, ça a été créé en 1796 par un médecin qui s'appelait Hahnemann, un médecin saxon, donc, qui émet l'hypothèse donc, qu'une petite dose de poison soigne le poison lui-même, qu'il faut soigner le mal par le mal. Et donc lui, ce qu'il décide de faire, c'est de diluer des petites doses de poison qui ont le même effet que les maladies pour soigner ces maladies-là. Donc pour ça, il développe quatre principes. Donc le principe de similitude, il faut que la substance homéopathique ait un effet similaire à celui de l'affection traitée. La dilution, donc plus la dilution est grande, plus l'effet sera grand, parce que la dose de poison, la partie dangereuse du poison sera inférieure. La dynamisation, donc pour conserver l'effet de la substance, il faut la dynamiser, c'est-à-dire la secouer lorsque l'on fait les dilutions. Et voilà, et donc ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, on se retrouve avec des solutions extrêmement diluées, avec très peu de ce qu'on appelle le principe actif, voire, on le verra plus tard, pas du tout. Et pourtant, on constate que ça marche. Alors à l'époque, ça marchait, on peut l'expliquer, parce que la médecine alternative, c'était soigner avec des saignées, avec des injections de mercure, en dose beaucoup, beaucoup plus grande que ce qu'on retrouve dans les vaccins, je précise, avec des purges, donc des médecines très, très... très très forte, on va dire, et très très peu efficace, voire moins efficace que le fait de ne pas se soigner. Donc on peut comprendre que derrière, l'homéopathie, qui recommandait aussi de ne pas prendre de thé, de café, d'alcool, de viande, de fromage ou d'oignon, de pas faire de travail manuel pendant le traitement, de ne pas prendre de sieste, de ne pas rester enfermé, etc., ait eu un effet bénéfique sur les gens. De nos jours, ça s'explique moins, parce que si l'on prend l'exemple de la version la plus populaire, qui est l'oscillococcinum, l'oscillococcinum, ça a été développé au début du XXe siècle par Joseph Roy, qui a cru observer un organisme qu'il baptise oscillocoque dans différentes maladies. on sait aujourd'hui qu'il n'a, on sait pas ce qu'il a vu, mais on sait aujourd'hui que ça ne peut pas être l'organisme responsable de cette maladie parce que il l'a associé à la grippe. Et or, la grippe, on sait maintenant qu'elle est due à un virus, et le virus n'était invisible avec des techniques optiques de l'époque, donc ça peut pas être ça qu'il a vu. Et pourtant, il a développé donc une méthode à base de cœur et de foie de canard de Barbarie que l'on laisse macérer donc pendant 40 jours. Après quoi, on prend un extrait. Donc, si l'on prend la version actuelle des laboratoires Boiron, donc il faut ajouter dans un litre de dans une bouteille d'un litre, il faut ajouter 35 grammes de foie et 15 grammes de cœur de canard de Barbarie. Pardon.
Une jolie mixture.
Voilà. Après donc qu'on a fait macérer 40 jours. Après ça, non, voilà. Donc on fait ce mélange, on le laisse macérer 40 jours. Puis on réalise une dilution à 200 K. Donc qu'est-ce que ça veut dire une dilution à 200 K ? Ça veut dire qu'on va remplir un pot avec la solution, on va la vider, on va estimer que ce qu'il reste c'est un centième de la solution de départ, et on va faire ça donc 200 fois. Ensuite on pulvérise ça sur des granules de lactose qui sont ensuite séchées, et c'est ce qu'on retrouve dans les petites dosettes là, de 1 g qu'on a vendues sur le marché. Et quand on fait les calculs, quand on remarque que la dilution est telle que, par exemple, si on voulait diluer un centimètre cube de la solution de départ autant que ce qu'on a fait, mais d'un coup, il faudrait qu'on le mette dans un cube d'eau qui est plus grand que l'univers, beaucoup plus grand que l'univers, qui ferait 10 puissance 400 fois 10 puissance 400 centimètres cubes. Donc c'est gigantesque. Donc on c'est sait. Énorme. Donc on sait de nos jours. Hahnemann ne le savait pas à l'époque, mais on sait de nos jours qu'il n'y a probablement aucune molécule dans le, de principe actif. C'est du sucre, par ce, dans l'homéopathie.
Nicolas, est-ce que c'est vrai, j'ai entendu ça dans les médias, que, par exemple, pour certains produits homéopathiques, on va retrouver, par exemple, une molécule de principe actif. C'est comme si, pour certains produits, on avait une molécule de principe actif dans une quantité d'eau comme le lac Clément.
Absolument. En réalité,
c'est même plus.
C'est ce qu'on dit, mais statistiquement... C'est-à-dire, tu ne vas pas avaler la quantité, l'équivalent du lac Clément d'homéopathie. Donc concrètement, toi, si tu prends l'équivalent d'une gélule dans le lac Clément, tu as très peu de chances d'avoir une molécule. Donc on sait que l'effet ne peut pas être lié aux molécules vu qu'elles ne sont plus présentes. Alors il y a des théories qui sont avancées, la mémoire de l'eau, il y a des explications quantiques. Mais derrière, donc il pourrait y avoir un effet, pourquoi pas, il pourrait y avoir quelque chose qu'on ne comprend pas qui marche. Mais c'est, et c'est là où je voulais en venir, parce qu'il y a un effet. Ce que l'on fait scientifiquement quand on veut évaluer l'effet d'un médicament, on ne le compare pas à rien, on le compare à l'effet placebo. Et c'est l'effet placebo qui est important. Parce que, qu'est-ce que c'est l'effet placebo ? Parce que souvent les gens se disent, oui, c'est juste quelque chose dans la tête, c'est une impression d'aller mieux, c'est pas vrai, on va vraiment mieux avec l'effet placebo. C'est quelque chose de démontré. Par exemple, je sais plus où sont mes notes. Voilà, c'est ce qu'on appelle un effet contextuel. Donc on peut avoir des effets sur l'anxiété, la douleur, la dépression, mais aussi sur la fréquence cardiaque, la pression artérielle.
Je me permets de te couper, oui. J'ai également vu une étude sur l'effet placebo, comme quoi quand on l'utilisait dans les thérapies psychologiques, en fait, il avait autant d'effets qu'un médicament antidépressif. C'est-à-dire qu'en fait, on donnait un placebo à une personne et un médicament antidépressif, on avait le même résultat à la fin, autant de personnes étaient guéries ou avaient toujours les mêmes symptômes. Mmh. Donc, est-ce qu'on peut vraiment, enfin, est-ce que l'homéopathie en soi a vraiment une différence par rapport à l'effet placebo ou c'est juste en fait l'impression d'être soigné psychologique qui fait que ça va avoir un impact sur le corps et alors, du coup on va se sentir mieux ou c'est juste l'homéopathie marche vraiment et il y a vraiment un,
alors oui et non
un aspect médical.
Clairement, ça, enfin, il y a aucune, enfin, ça ne fonctionne pas. Il y a pas une molécule miracle qui va donc ouais. c'est plus dans la tête entre guillemets.
C'est justement ouais. ça. C'est les gens ont l'impression que souvent on entend dire que voilà c'est dans la tête, c'est juste une impression. C'est faux. Il y a un effet physique, c'est-à-dire que par exemple quand on parle du placebo, il y a des gens qui se plaignent de douleurs chroniques dans des articulations, des choses comme ça. Il y a des expériences peut-être discutables éthiquement, mais où on a fait des opérations, des fausses opérations. Donc on a mis les patients sous sédation, on les a ouverts, on les a refermés, l'articulation ou quoi, sans rien faire, et les gens n'avaient plus mal. Donc vraiment, il y a un véritable effet.
Il y a vraiment un aspect psychologique en fait, à prendre dans l'homéopathie et c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire pour les plus sceptiques, scientifiquement, il n'y a pas d'effet observé, donc ça ne mérite pas d'être remboursé. Mais d'un autre côté, l'effet placebo marche vraiment. Donc est-ce qu'il y aurait une solution à ça plutôt que, enfin, en soi, c'est vendre du vent, quoi. On vend du vent.
Mais clairement pas, du coup, ce n'est pas vendre du vent.
Oui, mais on vend quelque chose qui n'apporte rien, mais le patient psychologiquement...
Oui, mais ça apporte quelque chose. C'est juste c'est que c'est pas, ça n'apporte pas quelque chose dont... Enfin, ça n'apporte pas ce dont on... Ce qu'on croit, en fait.
C'est ça.
Ce à quoi on s'attend.
Oui, c'est ça, oui.
Mais j'ai envie de me faire un peu l'avocat du diable, mais par exemple, pour des produits comme les doliprane, comprends qu'on a des mal de tête. est-ce que ce serait pas mieux justement de prendre ces produits homéopathiques, sachant que le Doliprane, ça va avoir des effets néfastes, par exemple, sur le foie, vu que ça va générer de l'acidité dans le foie. Est-ce que, par exemple, on ne pourrait pas dire que l'homéopathie est justement une alternative à ces problèmes?
Mais si tu dis, par exemple, pour les patients qui sont sceptiques, enfin moi, c'est un petit peu mon cas. Je peux croire que l'homéopathie marche, mais je ne sais pas si ça marchera sur moi parce que je sais du coup qu'il n'y a rien dedans. Je
exactement,
sais.
Il faut, ça marche coup, psychologiquement. Faut, voilà, ça marche quand on y croit en fait.
Psychologiquement,
ça marche pas,
je sais moi qu'il n'y a rien entre guillemets dedans. Et donc, quand je prends un doliprane, je sais qu'il y a un principe actif qui va marcher et du coup, bah, peut-être qu'il y a un effet placebo aussi. En soi, ça ne marcherait peut-être pas aussi bien que ça si je n'y croyais pas. Mais le doliprane marche et après, le remplacer, ce serait un peu mentir aux patients. Je ne sais pas. C'est.
Voilà, en tout cas, ce qu'il faut retenir pour les médecines les médecines alternatives donc, ou non conventionnelles, c'est qu'elles sont fondées sur des théories qui sont aujourd'hui prouvées être fausses ou en tout cas...
non vraies.
C'est, merci, voilà.
Difficilement démontrables.
Mais il ne faut pas non plus penser qu'elles sont totalement inefficaces, puisqu'il y a cet effet placebo dont on a parlé qui est très intéressant. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles ne sont pas basées sur des faits scientifiques qui sont aujourd'hui établis, mais qu'elles ont quand même un effet très important et très intéressant.
Ok, et on avait parlé aussi de la naturopathie, je crois que je ne vais pas réussir à le dire non plus, je vais laisser Jules prononcer ce mot.
Lequel?
L'acupuncture. Exactement, merci.
C'est ça, ce mot-là.
Merci beaucoup. On a parlé un petit peu, est-ce que c'est un peu le même principe que l'homéopathie ou il y a vraiment quelque chose derrière qui fonctionne?
C'est une toute autre théorie.
Non, mais qui...
C'est une théorie complètement différente, puisque c'est une théorie complètement à part et sur laquelle l'acupuncture est basée, qui se base sur la tradition médicale chinoise, okay. Où en fait le but est de stimuler, pour faire très court, des zones sur la peau qui seraient en fait en lien avec des flux d'énergie internes au corps. Et donc, le fait de stimuler ces zones sur la peau pourrait avoir un effet sur la circulation des énergies dans le corps.
C'est totalement différent.
Rétablir l'équilibre dans le corps. Et donc voilà. Et après, il y a plusieurs formes d'acupuncture aussi. C'est-à-dire que la plus connue et la plus répandue, enfin celle que tout le monde connaît et dont tout le monde a entendu parler, c'est celle avec les aiguilles. Mais il existe aussi une acupuncture qui est donc un peu différente. Qui se base notamment sur l'application de points chauds sur les points donc de la peau.
D'accord, tout à fait. Ok. Ça répond à ma question, merci.
Donc je pense qu'on a un peu fait le tour du sujet. J'espère qu'on vous aura appris des choses et que vous aurez passé un bon moment avec nous. En guise de conclusion, j'espère que tous les intervenants seront d'accord avec moi. On peut dire que la dégradation des relations entre patients et médecins et ces scandales sanitaires comme celui du Mediator ont en fait poussé une partie de la population à devenir méfiant envers cette médecine traditionnelle. Par conséquent, on a aujourd'hui des personnes qui refusent de se soigner avec des méthodes de médecine traditionnelle. Et pour certaines pratiques, comme celle de la vaccination, cela va poser problème. Car on remarque par exemple aujourd'hui en France une augmentation des cas de rougeole, maladie que les vaccins avaient presque fait disparaître. Une des solutions à ces problèmes pourrait être, par exemple, une meilleure prise en charge du patient avec plus d'écoute, plus de communication entre médecin et le patient. Et on espère que dans le futur, cela pourra redonner confiance aux personnes envers leur docteur et la médecine. Au revoir. Thank you.
now we're giving.